Dieu vous bénisse richement. Nous sommes le lendemain de la veille, n'est-ce pas? Bravo, c'était très bien. On va pas dire la petite. Elle me dit, papa, mais c'est bien fait. Je dis, eh oui, mais bon, adresse-toi à celles qui sont là. T'adresses pas à moi parce que moi, je n'en voulais pas. Quoi? Tu n'en voulais pas? Je dis, non, ben, j'ai remarqué, j'ai eu tort. C'est tout. Voilà. Mais que Dieu vous bénisse richement. Ouais. On aura l'occasion d'en reparler. Nous allons prier. Père Céleste, c'est avec tremblement que nous approchons de toi. Avec crainte, nous sommes venus ici ce soir, en ce lieu où nous nous rassemblons, afin d'écouter ta parole. En venant, nous avons aussi des requêtes, nous avons aussi des demandes. Puisses-tu nous accorder la faveur de nous les donner, si tu le veux bien. Une faveur que nous te demandons. Comme David disait une fois, je te demande deux choses, ne me les refuse pas. Et les choses qu'il a demandées étaient des choses justes. Et les choses justes que nous te demandons ce soir, poussées par le Saint-Esprit, veuille nous les accorder. Ainsi nous pourrons louer ta bonté, la proclamer, pourrons exalter ton saint nom, pourrons apprécier en te louant ta miséricorde ainsi que ta grâce. Nous te remercions pour toutes choses et pour le pardon de nos péchés. Te demandons de nous inspirer ce soir dans le petit temps que nous passons. Si les corps sont fatigués, nous redonne la force. Je distille juste un mot qui leur sera bénéfique au moment où ils vont entrer à la maison. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, je t'adresse ma prière. Amen. 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 Il y a une chose... J'oublie de vous dire, j'ai appris que Sœur Régine est hospitalisée. Et vous pouvez vous souvenir d'elle dans la prière. Elle est toujours à l'hôpital?
Non, elle est sortie. Elle vient de sortir.
Elle est sortie? Ah, elle est sortie. Gloire à Dieu. Bien, nous allons lire dans Philippiens chapitre 3. Je n'ose pas trop le dire, mais en principe, on ne fera pas longtemps aujourd'hui. Verset 10. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On va intituler le sujet, sort du verset 12, ces trois mots, « Mais je cours ». Paul, c'est quelqu'un qui avait la foi. Ayant la foi, il était donc déjà sauvé. Parce que si on lit le verset 7 à 9, nous voyons, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Avant d'aller dans Éphésiens, nous pouvons lire ce verset 7 à 9 un peu comme étant l'interprétation de ce qu'il appelle courir. Il court, il ne se contente pas du salut. Comme beaucoup, une fois qu'ils savent qu'ils sont sauvés, ils s'asseyent, ils font dans un hamac et ils attendent. Non. Ils continuent quand même à rechercher quelque chose de plus. Ça, c'est l'attitude de l'épouse. L'épouse ne se contente pas d'être sauvée. L'épouse a encore plusieurs choses à obtenir que le salut. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8, entre autres, parmi les choses à obtenir, c'est la connaissance de Christ. Amen. Connaître Christ. Il y en a qui sont sauvés, mais qui ne le connaissent pas bien, qui ne le connaissent peut-être même pas du tout. De quoi Christ est capable, de quoi Christ peut être son secours, comment Christ est son sauveur. Ils croient qu'il est le Fils de Dieu, mais ils oublient certaines choses que Christ peut faire, qu'il baptise du Saint-Esprit. Dans Éphésiens 2, Paul dit, il atteste, il dit, il est de ceux qui sont sauvés. Éphésiens 2, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Il s'adresse aux Éphésiens, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, donc, il s'inclut dedans. Maintenant, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Si je m'arrête là, nous allons dans Exode. On va continuer la lecture de Éphésiens 2. Nous allons dans Exode 30, 33. Moïse était un appelé de Dieu. Moïse avait une relation privilégiée avec Dieu. Verset 12. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux, c'est ce que tu m'as dit. » Donc, s'il a trouvé grâce, il est sauvé. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Il veut connaître plus de ce Dieu-là qu'il a appelé. Amen. Ça, c'est la position de l'épouse. L'épouse veut connaître plus de Dieu. Il y a plein de choses que nous connaissons aujourd'hui, mais nos cœurs considèrent toujours que ce n'est pas encore assez. Et Dieu a de multiples facettes. Mais pour le connaître plus, il faut vraiment y mettre du sien. Il dit, alors je te connaîtrai, je trouverai encore grâce à tes yeux. Oui, c'est grâce sur grâce. Considère que cette nation est ton peuple. Et Paul, justement, aux Éphésiens, il dit que Dieu est riche en miséricorde. Alors Dieu va se faire connaître un peu plus encore à Moïse dans Exode 34. L'Éternel va encore se connaître. D'abord, au verset 18 de 33, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel lui répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Alors, l'Éternel va passer devant lui, Exode 34, verset 5, L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Lorsque vous lisez, on vient de chanter ici les gens d'autrefois, ils se sont attachés à sa parole, ils ont marché avec lui. Quand on regarde leurs prières dans l'Ancien Testament, on voit combien ils connaissaient Dieu dans ces aspects-là. Dieu plein de miséricorde, Dieu riche en bonté. Le psalmiste, lui, il dit « sa miséricorde durera toujours ». Vous voyez, c'est important de le connaître ainsi. De connaître de plus en plus. Et ça va de révélation en révélation. Quelqu'un d'autre se serait contenté, par exemple, dans Exode 3, quand Dieu lui a parlé dans le buisson, du buisson ardent, et il lui a dit, qu'est-ce que je vais dire aux enfants d'Israël que l'Éternel, c'est qu'il dit, je suis l'Éternel. Beaucoup s'arrêtent là, se seraient arrêtés là. Mais Moïse, il ne s'est pas arrêté là. Il y a eu le buisson ardent, il y a eu même les épreuves devant Pharaon, et il y a eu la mer Rouge qui s'est ouverte, il y a eu tout ça, mais il veut encore connaître. Amen. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, Moïse a voulu connaître. Et c'est le cas, en tout cas, de l'épouse. Quelqu'un de l'épouse n'est pas fatigué. Il veut connaître encore plus. Dès qu'il a la pleine révélation d'un aspect divin, eh ben, il veut en connaître un autre. Il sait que Dieu est infini. Vous ne pouvez pas l'épuiser. Sa bonté, Jérémie dit, sa bonté ne s'épuise jamais. Elle se renouvelle chaque jour. Oui. Alors, dans Éphésiens, Paul dit, dont on a lu verset 4, chapitre 2, Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et au verset 8, il dit ceci. Bon, on peut continuer. Hein. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin, et c'est là que Paul veut y être. C'est pour ça qu'il court. Dans Philippiens, il dit, il veut te trouver en Christ. C'est là qu'il veut être. Il dit, dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. C'est infini. Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et les Éphésiens ne devaient pas s'arrêter là. Ils ne se sont pas arrêtés là, c'était une bonne assemblée, l'assemblée d'Éphèse. Mais, non, Paul dit, pour apprendre encore plus, je ne viens pas nonchalamment, avec nonchalance, non. Il dit, je cours. Et lui, courir, cela ne veut pas dire piquer un sprint. Non, il ne parle pas de ça. Mais il parle de courir spirituellement. Et bon, et il court pourquoi? Il le dit, il a dit, il avait dit aux Philippiens. Pourquoi il court? Écoute, je vous tiens sauvé. Il dit, au verset 14, il dit, je cours vers le but. Pourquoi? Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il ne pouvait pas juste se contenter d'être sauvé. Il y a un prix à remporter. Il voulait le prix. Il voulait ce prix. Et l'épouse, en tant que vainqueur de l'âge de l'Odyssée, parce que c'est l'épouse, c'est un groupe de vainqueurs, celui qui vaincra, eh ben, a un prix qui l'attend. C'est de régner avec Christ, n'est-ce pas? Et nous courons derrière ce prix-là. Et Pierre, lui, il dit autrement ces choses-là. Il dit, la foi, c'est bien, mais n'en restez pas là. Ça va? Ne restez pas oisif, dit Pierre. Oisif, ça veut dire paresseux. Pas parce que vous avez la foi que vous devez rester paresseux. 2 Pierre, chapitre 1. Lui ne parle pas de courir, mais il parle de fuir. C'est aussi une sorte de course. Amen. 2 Pierre, chapitre 1. Et ça a toujours le même but, hein, la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, nous avons ce don-là qui nous est donné par Dieu. Est-ce que nous avons tout ça? On peut voir que parfois il manque certaines choses. Il peut manquer certaines choses, ça, il peut manquer ceci ou cela. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, quand on vous demande d'être pieux, eh bien, Dieu a donné ce dont il faut pour être pieux. Pour avoir la vie spirituelle, Dieu a donné ce dont il faut pour avoir la vie spirituellement. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Non, même les ministres qui sont appelés à exercer le ministère, les apôtres par exemple, ils ne devaient pas rester oisifs. Dieu m'a appelé, ben je vais attendre qu'ils viennent, ils me prennent encore, ils me disent va à tel endroit. Non. Ils étaient chaque fois à la recherche de ces richesses, de ces choses cachées que Dieu ne révèle qu'à ceux qui veulent les connaître, qu'à ceux qui ont ce désir-là de connaître. Moïse a dû demander. Alors, de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, celle-ci, sa gloire et sa vertu, nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Alors, comment ça? En fuyant la corruption qui existe dans le monde. C'est une manière de courir. Il faut fuir la corruption qui est dans le monde. Par la convoitise qui existe dans le monde, par la convoitise. Alors, à cause de cela même, il dit, faites tous vos efforts. Dites amen à ça. Un jour, quelqu'un m'a posé la question. Il m'a dit, mais ça veut dire quoi, faire tous ces efforts? Ça veut dire fuir la corruption qui existe dans le monde. Ce n'est pas facile. Ça veut dire quoi, fuir? Ça veut dire quoi? Fuir, comment dirais-je? Faire tous ces efforts, c'est courir. Comme dit Paul, il dit ici, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Parce que fuir la corruption, ce n'est pas facile. Ça demande des efforts. Ça demande une certaine force, une force de caractère. Savoir dire non à la chair pour joindre à votre foi. Vous voyez, la foi, vous l'avez. Mais maintenant, ce qu'il faut joindre à votre foi, eh bien, il faut faire des efforts pour avoir ça. La vertu. Et une fois que vous avez la vertu, ne vous arrêtez pas là. Continuez à marcher. Continuez à courir. Fouillez la corruption. Faites tous vos efforts, joindre à la vertu la connaissance. Voilà, on y est encore. Vous avez la connaissance, vous connaissez presque toutes les citations, vous connaissez presque toutes les brochures. C'est très bien, mais ne vous arrêtez pas là. Le problème n'est pas la mémoire, le cerveau, non. Le problème, c'est une véritable connaissance de qui il est. De la connaissance, donc faire à la connaissance, faites tous vos efforts pour joindre la maîtrise de soi. Il faut des efforts. Savoir se maîtriser. Maintenant que vous arrivez à vous maîtriser, le travail est terminé. Non, ce n'est toujours pas fini. À la maîtrise de soi, la patience. La patience envers qui? Envers son prochain. Mon frère me dit, d'abord la patience envers Dieu, envers ses promesses. Il vous a fait des promesses, vous avez demandé, soyez patient. Quand Dieu dit « soyez patient », ça veut dire ce que ça veut dire. Maintenant, quand il vous dit « soyez patient », cela ne veut pas dire qu'il faut s'asseoir et s'arrêter à attendre. Non. Il faut... La patience signifie agir comme si vous avez déjà reçu la chose que vous avez demandée, continuer à le servir. Et non pas se décourager, attendre que Dieu fasse un jour un geste. Non! Mettez Dieu dans l'embarras, entre guillemets, si vous voulez. Ça veut dire, non, Dieu dit, lui-même il nous donne l'exemple du juge inique. Il dit, cette femme qui importune le juge nuit et jour. Il dit, alors vous qui priez nuit et jour. Ne vous fera-t-il pas justice? Il dit ses élus, pas tout le monde. Ses élus crient à lui nuit et jour. Les élus mettent Dieu dans l'embarras. Dieu dit, je ne vais pas laisser mon élu continuer à crier comme ça. Maintenant, si l'élu s'était tu, je suis élu, il reste là. Eh bien, il n'allait pas recevoir. Oui. Donc faites tous vos efforts. Maintenant, quand vous avez la patience, ce n'est pas fini. Ah, la patience, la piété. Qu'est-ce que c'est loin la piété. Hein? Alors que tout ce qui contribue à la piété, il nous a donné. La piété. Un homme pieux, c'est un homme comme Dieu, dit le frère. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel. Non, l'amour fraternel, c'est un peu ce que vous avez exprimé hier. À l'amour fraternel, l'amour. Vous savez, agape, ça veut dire amour. Hein? Normalement, c'est l'amour, agape, c'est l'amour de Dieu. Agapao. L'amour fraternel, c'est l'amour filéo. Et puis, il y a aussi l'amour érotique, d'éros. Ça vient du grec, ces choses-là. Alors, maintenant, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, il ne faut pas un peu de patience, non. Il en faut beaucoup, mais avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, donc vous ne serez pas oisifs. Vous serez toujours en train de chercher. Vous ne serez point oisifs ni stériles. Pourquoi ? Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui ? Le connaître réellement. Cette femme, elle connaissait le Messie. Paul dit, ainsi, je connaîtrai Christ. Cette femme, elle connaissait le Messie d'après ce qu'il en avait été dit dans Jean 4. Oui, quand le Messie viendra, il nous dira toutes ces choses. Mais Jésus vient. Verset 7. Jean 4. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, si seulement tu le connaissais, non seulement cela, si tu connaissais le don de Dieu, et si tu connaissais qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, toi qui as besoin d'eau là, toi, tu lui aurais demandé à boire. Ouais, donc ce dont vous avez besoin là, si vous connaissiez Jésus-Christ, vous le lui auriez demandé. Mais il y a cet aspect-là que vous ne connaissez pas. Ce qui fait que vous ne lui demandez pas. Il dit, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. L'eau vive, c'est le Saint-Esprit. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. C'est un peu comme l'argent. plus vous avez de l'argent, plus vous allez vouloir en avoir. Ce n'est jamais assez. J'avais déjà lu une fois des articles des gagnants du loto. Ils ont gagné une centaine de millions, mais ils continuent encore à jouer. Et ils gagnent. Il y en a qui ont gagné deux fois. Et ils continuent encore à jouer. Bon, ça, ce sont les choses du monde. Mais l'eau qui donne la vie, eh ben, quand on en boit, on aura encore soif. Mais Jésus a de l'eau qui fait que quand vous en buvez, cette eau-là se reproduit elle-même en vous. Mais celui qui boira, verset 14, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle, jusque là-bas. Il n'aura plus à rechercher. Mais justement, il faut en arriver à avoir cette source d'eau-là. Et pour cela, une fois que vous avez cru, une fois que vous avez reçu le message, eh bien, ne restez pas juste simplement assis avec oisiveté, mais courez. Ne courez pas pour savoir ce qu'on dit les tonnerres. Ça ne vous avancera pas. Si Dieu a dit celle ça, hein, c'est scellé. Maintenant, s'il faut qu'on vous les révèle, Dieu vous les révélera. Vous cherchez ce Saint-Esprit qu'il donne. Il vous révélera toutes ces choses dont vous avez besoin pour partir. C'est ça l'intérêt de connaître Christ. Et il nous donne les choses justes. Les choses que nous, dont nous avons réellement besoin. Et c'est lui qui donne ce Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous dit Paul dans Romains, c'est ce qui est convenable de demander. C'est-à-dire quand on demande quelque chose à Dieu, Dieu ne nous donne pas, on sait ça, il ne nous donne pas un serpent, il ne nous donne pas un scorpion, mais il nous donne ce qui est convenable. Amen. De même aussi, Romains 8, 26, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit parce que l'Esprit, c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Selon Dieu. Amen. Je cours, dit l'apôtre. Le mais veut montrer que c'est vrai, j'ai déjà beaucoup de choses, j'ai déjà reçu beaucoup de choses, mais je ne m'arrête pas là. Mais je cours, je continue à courir. Paul, ben, pour Paul, c'est quoi ça, courir ? 1 Corinthiens 9. Verset 19. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. C'est la tâche que Dieu lui a donnée. Il voudrait remporter le prix de la vocation céleste. De l'appel, ça va ? De l'appel qu'il a reçu, donc il y a un prix pour cela. Alors, il veut remporter ce prix. Dites amen à ça. Donc, lui, son problème, c'était de gagner le plus grand nombre. C'est pour cela qu'il s'est rendu serviteur de tous. Il n'a jamais été devant les gens avec une supériorité de langage. Il dit ceci, « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, pour beaucoup de simplicité, hein, afin de gagner les Juifs. » Dites amen à ça. C'est beaucoup de concessions. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Donc, quand vous êtes en présence des légalistes, ne commencez pas à leur dire, parce qu'ils risquent de partir. Pour les gagner à Christ, ne commencez pas à leur dire, oh frère, ça, la grâce est déjà là, il n'y a pas de... Non, non. S'il est sous la loi, restez avec lui sous la loi. Vous allez le gagner un jour, Dieu va lui révéler la grâce. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, eh bien, comme étant sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Hein? Ne forcez pas les gens. Ne les regardez pas avec mépris, un païen, non. Il faut les gagner. Ne faites pas les mauvaises choses qu'ils font, mais comprenez-les. Par votre attitude, eux-mêmes se sentiront condamnés. Vous, gentiment, vous ne le faites pas, mais vous ne les condamnez pas. C'est votre attitude qui va les condamner. Donc, il ne faut pas leur imposer ces choses. Ah, nous sommes des chrétiens, donc ça doit être comme ça, carré. Non. Soyez flexibles, si je peux dire, sans compromis. Avec eux, ben, il dit, pour gagner les gens en Christ, même s'ils sont sans la loi, moi je serai avec eux comme, pas sans loi, mais comme sans loi. Quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de tout à tous, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Si vous pouvez en sauver même deux, trois, gloire à Dieu. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent, la course, que ceux qui courent dans le stade courent tous, tout le monde court, mais qu'un seul remporte le prix, hein, je crois l'avoir déjà dit ici, nous on n'applique pas, n'est-ce pas, la philosophie de Coubertin. Monsieur de Coubertin, le monsieur de Jeux olympiques, pour lui, sa philosophie, tu as perdu, ce n'est pas grave, l'important, c'est de participer. Non. Nous, on ne court pas pour perdre. Dites amen à ça. Il ne faut pas courir juste pour participer. Non. Alors, il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Alors, il dit, courez de manière à le remporter. Courez de manière à remporter ce prix. Si on vous dit qu'il ne reste plus qu'une portion du Saint-Esprit et que nous sommes 10 à demander, ben, courez pour l'avoir. Mais il y en a pour tout le monde, mais courez. En aussi grand nombre, le Seigneur Dieu appellera. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alors il dit, et il reprend, moi donc je cours. comme aux Philippiens. Il dit, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je sais où je vais. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais cette course-là, il dit, mais je traite durement mon corps. Pour être faible parmi les faibles, il traite durement son corps. Pour être sans loi parmi, comme sans loi parmi les sans loi, c'est traiter durement son corps. Parce qu'avec sans loi, avec les sans loi, tout est permis. Mais vous savez que vous, cela n'est pas permis. Oui. Et je le tiens assujetti. Donc mon corps est assujetti. Donc il m'est soumis. De peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Si je vous prêche qu'il y a la félicité là-bas en haut, mais moi-même, je dois vous montrer que, effectivement, je suis convaincu qu'il y a la félicité. Comme disait Frère Roger Godefroy, paix à son âme, il disait, ce n'est pas en regardant la télévision que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Il faut courir. Il faut bouger, spirituellement parlant. Je cours, dit l'apôtre. Et vous savez quoi? La couronne, là, incorruptible, pour laquelle il court, vous savez qui va l'obtenir? Il a tellement bien couru. Il va l'obtenir. Et cela soit notre cas également, que nous puissions l'obtenir après avoir couru. Comment ça, frère François, comment sais-tu qu'il l'a obtenu? Mais il le dit, 2 Timothée 4. Mais à quel prix il l'a obtenu? Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, ce que nous attendons tous, n'est-ce pas? Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Ne te repose pas sur tes lauriers. Ton salut, non. Prêche la parole, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur. N'ayez pas de donneur de leçons. Et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, Timothée, tu n'es pas n'importe qui. Tu es mon fils dans la foi. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. C'est ça, courir. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai couru, j'ai achevé la course. Ça va? Il a achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne, il l'a. La couronne de justice m'est réservée. Il a eu sa couronne. Il a remporté le prix. Le Seigneur, le juste juge, il est certain de ça. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, et ça s'adresse à nous, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. La couronne de justice, elle est pour vous également. Courons de manière à la remporter. Prions le Seigneur. Père Céleste, merci encore ce soir de ce que tu éveilles notre esprit, de manière à ce que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux ou des auditeurs passifs. Mais nous voulons être actifs concernant tes promesses, concernant toutes ces choses que tu nous as promises. Nous voulons être actifs à la mesure où tu veux nous transformer en l'image de ton Fils. Cela exige de nous une course. Cela exige de nous cette course, une course à obstacles. Pour les obstacles, nous ne voulons pas nous arrêter. Nous te demandons la grâce de nous aider à les surmonter. Ne te demandons pas à les enlever pour que nous puissions continuer la course. Mais nous voulons vraiment les surmonter de manière à ce que nous puissions proclamer ta bonté, ta miséricorde, comme ceux d'autrefois. Ta grâce, combien ils ont proclamé ces choses, tes précieux attributs qu'ils ont expérimentés. Les nombreux combats que nous avons dû affronter ne peuvent pas entamer notre foi. L'apôtre dit, malgré toutes ces choses, il a gardé la foi. Et la justice s'obtient par la foi. La foi qui est un don de Dieu. Il ne s'est pas arrêté à ça. Il a couru pour remporter ce prix et il l'a obtenu. Et poussé par le Saint-Esprit, il nous donne cette parole encourageante que la couronne ne lui est pas seulement réservée à lui, mais tous ceux qui auront aimé son avènement pourront la recevoir. Cette couronne, nous l'avons. Comme nous chantons, une couronne, Jésus la donne aux soldats de la croix. C'est une bataille, c'est vrai, mais la bataille, la guerre en tout cas, elle est gagnée. Car l'Église que tu as bâtie, c'est une Église de vainqueurs. C'est une église de triomphe, en tout cas triomphante, malgré les difficultés. Tu as dit que même les portes de l'enfer ne pouvront prévaloir sur elle. Sois béni, sois loué. Sois exalté. Merci pour ce moment que nous avons passé ensemble. Beaucoup ont peut-être encore le corps fatigué, mais renouvellent leur force. Oh, afin que leur course ne soit pas entamée, que leur course puisse continuer. Te remercions. Nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Te remettons notre chemin de retour. Amen. Dieu vous bénisse.